vue d'ensemble de l'actualité.
Monsieur Mancel, il a eu un COVID début mai. Ça fait 50 jours, je pense, qu'il est hospitalisé. Puis il n'y avait pas beaucoup d'antécédents. Là, il est complètement déconditionné. Il arrive à peine à marcher. Il n'a plus de muscles du tout au niveau des jambes. Là. Il demeure avec une bonne atteinte respiratoire. Il a besoin d'oxygène. Il est très, très faible. Là. On a un gros travail de réadaptation à faire là, avant qu'il puisse sortir pour la maison.
Trainville PM.
Alors, celle que vous entendiez, elle est pneumologue. C'est l'une de ces médecins que l'on voit dans la formidable émission 24/7 là, qui est présentée sur les ondes de Télé-Québec, qui raconte un peu le quotidien de cet hôpital Maisonneuve-Rosemont, où pratique le docteur François Marquis, qui est chef des services des soins intensifs. Bonjour, François.
Bonjour, comment ça va?
Ça va, ça va. J'ai dit qu'elle était pneumologue. On pourrait l'appeler oui. Par son nom. Son nom, c'est docteur...
Karine Chagnon.
Docteur Chagnon. Bon, on la salue. Là, ça va pas bien, Maisonneuve-Rosemont. François, les urgences débordent. Vous êtes à 140% de capacité. Donc, vous avez beaucoup plus de patients que vous n'avez de civières. Tellement que là, l'hôpital a demandé aux patients de ne plus se présenter à l'hôpital.
Bien, en fait, hein, c'est parce qu'au-delà du 140%, ça serait déjà un bon défi de gestion en temps normal, mais présentement, le 140% est associé au fait qu'on manque de personnel de façon criante à l'urgence. En fait, il y a plusieurs endroits dans l'hôpital où on a un bris de service là par manque de personnel, mais naturellement, même si ça se passe partout dans l'hôpital, l'endroit où ça retient l'attention, où ça paraît dans les chiffres, c'est l'urgence. Donc, c'est pas juste l'urgence qui déborde. C'est l'hôpital au complet qui déborde et qui manque de personnel pour de multiples raisons. Mais c'est ça notre réalité dans l'Est, c'est que là, présentement, l'hôpital roule à plus que ce qu'il est capable de faire.
Bon, je vais dire franchement, François, puis je suis loin d'être un expert, mais je parle à plein de gens dans le réseau, puis je parle à plein de gens aussi au gouvernement. Et honnêtement, toute la question de la disponibilité du personnel... C'est l'enjeu numéro un. On est déjà en état d'essoufflement majeur et puis on rentre à peine dans la deuxième vague. Est-ce que toi, tu es optimiste qu'on va réussir à avoir assez d'infirmières, d'infirmières auxiliaires, puis je parle pas de tous les inhalothérapeutes et tout le reste, pour passer au travers de la deuxième vague ou est-ce qu'il faut se préparer à avoir des jours très difficiles?
Ben, oui aux deux. Dans le sens où je suis optimiste qu'il y a encore des solutions. Et il va falloir revenir au mode de pensée qu'on avait à la première vague, qui n'est pas nécessairement de confiner la planète puis d'arrêter les hôpitaux de vivre, là, mais cette idée-là qu'on avait d'être orienté sur des solutions, d'ouvrir des boîtes qui n'avaient jamais été ouvertes, de trouver des solutions originales, parce que là, ce que les dernières semaines démontrent, c'est qu'effectivement, peu importe ce qu'on fait là, ça aide peut-être un peu, mais ça aide pas assez. Mais oui aussi, malgré tout ça, malheureusement, il y a des gestes qui ont été posés collectivement par la société qui vont faire en sorte que les ressources qu'on aurait pu déployer pour la deuxième vague, dans le but de maintenir tous les services ouverts, ça, je crois que ça n'arrivera pas. Quand l'espèce de promesse que la deuxième vague, il y aurait dans l'hôpital, un hôpital, puis qu'il y aurait le track pour les COVID, puis les gens normaux auraient accès à tous les services dont ils ont besoin sans ralentissement. Moi, de mon point de vue, dans les tranchées, je ne vois pas comment ça va arriver à être fait. Mais oui, parce qu'on a juste pas assez, parce qu'on travaille fort, tout le monde. Là.
Parce qu'on n'a juste pas assez de personnel pour avoir deux pistes, une piste COVID, une track COVID, comme on dit, puis une autre pour les cas non COVID?
Exactement. Présentement, dans l'hôpital, j'ai tellement pas de personnel que mes salles d'op ne roulent pas à la vitesse normale. Les soins intensifs sont bloqués à peu près à 50%. Là, on travaille à augmenter l'offre de services. Plusieurs étages sont en rupture. L'urgence déborde. Et j'ai pas encore de COVID. J'ai deux patients à COVID aux soins intensifs. On est loin de mes 25 et quelques patients à COVID que j'avais là à la première vague. Et donc, mon hôpital, non seulement réussit pas, malgré tous les efforts qui sont déployés, à attirer plus de personnel qui enquête, parce que c'est pas qu'on n'attire pas personne, c'est pas qu'on n'est pas en train de former des infirmières, ils partent plus vite qu'ils rentrent. C'est ça le problème.
Ils partent parce qu'ils sont plus capables, elles sont épuisées, c'est ça?
Il y a plusieurs choses, hein. Il y a ça c'en est une réalité. Quand c'est difficile d'attirer quelqu'un, quand tout ce que tu entends dans les nouvelles, c'est les temps supplémentaires obligés. Il y a des gens qui vont simplement aller dans des hôpitaux par proximité. Il y a les gens qui voudraient bien travailler, mais ils ont des jeunes enfants qui sont en dépistage un jour sur deux parce qu'ils ont la goutte au nez puis qu'il faut qu'ils le fassent. Il y a ceux qui sont encore en maladie. De la première vague, il y a toutes ces choses-là mises ensemble partout dans le réseau. Il y a des, tu sais, ceux-là qui étaient à quelques semaines de leur retraite ou quelques mois de leur retraite, ils ont eu comme une bonne idée de partir peut-être à la retraite plus tôt. Est-ce les gens qui sont venus porter main forte, est-ce qu'ils sont prêts à revenir pour la deuxième vague? Ça, il y en a beaucoup que c'est non. Et ben après ça, les horaires de travail, il y a toute la question des horaires de travail où on a travaillé pendant des années à reposer sur les temps supplémentaires volontaires et le système s'était organisé avec ça, ça fonctionnait. Et là, si tout le monde arrête de faire des temps supplémentaires volontaires, on voit la véritable pénurie qu'il y a dans le système parce que les gens qui travaillent à temps partiel veulent rester à temps partiel.
Et c'est là que, si tu n'as plus assez de personnes qui font du temps supplémentaire volontaire, c'est là que tu es obligé d'aller vers le temps supplémentaire obligatoire. Et là, évidemment, ce que tu risques de faire, c'est d'épuiser encore plus tes infirmières et les inciter, dans certains cas, à quitter la profession ou à s'en aller dans une agence privée. Et là, le même hôpital d'où elles sont parties va appeler l'agence pour ramener l'infirmière, sauf que comme elle travaille dans une agence, elle va avoir le choix de dire non au temps supplémentaire obligatoire.
Exactement. C'est un bon résumé et il faut comprendre que le temps supplémentaire obligé, qui est juste dans le terme, c'est un peu une aberration, là. Il faut comprendre que ça ne fait que pelleter le problème au quart suivant ou à la journée suivante. Et quand on devient dépendant de beaucoup de temps supplémentaire obligé, ben on découvre toujours à deux quarts de travail de distance. Ces gens-là, on peut pas leur demander de faire trois temps supplémentaires obligés d'affilée. À un moment donné, il faut qu'un être humain dorme, là. Et ils ont des familles à s'occuper. On peut pas juste tout le temps faire ça. Et il y a le poids de la fatigue réelle, parce que ces gens-là travaillent. Mais il y a aussi le poids de cette épée de Damoclès-là qui sait que tu rentres le matin, tu n'as aucune vraiment idée quand tu sors. Et ça a un poids, là. C'est une forme de stress qui est rajoutée sur ta grosse journée de travail.
Et que c'est difficile de convaincre nos filles puis certains de nos garçons de s'en aller dans cette profession-là quand on entend ça, François. Écoute, on n'a quasiment pas le choix. Il faut se fier sur leur dévouement, puis ils sont nombreuses à nous écouter. Il faut leur demander de pas lâcher, même si on comprend pourquoi, à un moment donné, elles jettent la serviette, notamment pour des raisons familiales, mais aussi des raisons de santé mentale. À un moment donné, quand t'en peux plus, là, c'est sacrifice.
Mais il y a ça, et la grande question, c'est est-ce qu'on peut repenser toute la structure de travail dans le but de mettre une fin au temps supplémentaire obligé, et à partir de là, des nouvelles. Si on repense l'organisation du travail, il y a plusieurs plans qui sont proposés, mais il faut réussir à convaincre les gens que le changement, présentement, ça sera un changement pour le mieux. Naturellement, ça, c'est pas moi qui vais aller faire ça, mais je pense qu'il y a des pistes de solutions, mais le nouveau fait peur, puis dans une période d'incertitude, les gens ont peut-être moins confiance dans la nouveauté. Et le problème, c'est qu'il va falloir faire des changements si on veut, en bout de ligne, que ça aille mieux, là.
François Marquis, médecin, chef de service des soins intensifs à Maisonneuve-Rosemont. Merci, François.
Merci.
Alors là, je vous le dis, à 17h30, François Legault va annoncer que Montréal et Québec, au moins Montréal et Québec, mais moi, je pense qu'il va y avoir d'autres régions qui vont être aussi, qui vont se retrouver en zone rouge. Alors, on fait un petit détour par Québec. On s'en va voir un de nos médecins préférés là-bas, le docteur Paul Poirier, qui est cardiologue à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, ce qu'on appelle l'hôpital Laval. Bonjour, docteur Poirier.
Bonjour, monsieur Rainville.
Ah, docteur Poirier, vous êtes en éclosion. Vous avez des cas COVID dans l'hôpital, vous et l'hôpital Saint-Sacrement. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous ayez des éclosions comme ça là, dans votre hôpital?
Des patients qui ont été qui étaient hospitalisés dans la zone froide puis qui étaient sont virés chauds. Puis il y a des membres du personnel qui ont pogné la COVID comme n'importe qui quand la transmission est communautaire.
Ça va pas bien à Québec, là, Dr. Poirier. Ouais, ça va pas bien.
Ça va pas bien. Écoutez, les journalistes, là, c'est correct, là, il faut qu'ils vendent les nouvelles, là, puis qu'ils fassent ses affaires. C'est vrai que ça va pas bien à Québec. Non, c'est vrai qu'on apprend, on vit ce que Montréal a vécu au mois de mars-avril. OK? Sauf qu'on est, on bénéficie de l'expérience des gars de Montréal parce qu'on est peut-être un peu mieux préparé. Parce que, chose simple, là, vraiment simple, on manquera pas d'équipement.
Ouais.
Déjà là, on n'en parle plus de ça. Hein? Ouais. Faut regarder ce côté-là. Deuxième chose, là, nous autres, on est un centre désigné comme le CHU l'est, comme l'enfant Jésus l'est, et on a des cas COVID, puis je vous dirais qu'on est en contrôle. Pourquoi on est en contrôle? C'est parce qu'on a pas, on a des liens de soins intensifs. On n'est pas en Maisonneuve Rosemont. J'écoutais le Dr Marquis tantôt. Mmh. C'est pas notre hôpital. Notre hôpital, c'est pneumocardio-obésité. Alors, entre autres. Alors, on a des soins intensifs. On opère 50 cœurs par semaine.
Est-ce que vous allez pouvoir continuer à opérer 50 cœurs par semaine si vous avez de l'éclosion?
C'est ça. Non, là, on est rendu à 30 cœurs par semaine. OK? On a l'horaire d'été. On a appliqué l'horaire d'été en plein automne. Puis c'est ça qui est dramatique. OK? C'est dramatique parce que les urgences ne sont pas pleines chez nous comme peut l'être ailleurs. Ça ne déborde pas à l'urgence. Les gens ne vont pas à l'urgence. Puis on va avoir des catastrophes encore parce qu'ils ont peur d'avoir peur, parce qu'ils entendent les nouvelles. Puis là, c'est COVID-ci, COVID-ça. Puis j'ai une douleur thoracique où je fais une embolie pulmonaire. J'irai pas à l'urgence au cas où qu'éventuellement, je prends la COVID à l'hôpital. Ben, ils meurent chez eux. Ça, là, c'est arrivé au mois de mars, c'est arrivé au mois d'avril, c'est arrivé au mois de mai. Puis ça va arriver encore parce que les gens ont peur de venir à l'hôpital pour se faire soigner.
Mais
c'est pas d'aller à l'urgence parce qu'ils ont une calvitie puis un nom incarné, là. C'est pas ça que j'ai dit, là. On est à un hôpital de cardio-pneumo. Venez à l'hôpital.
Mais docteur Poirier, vous me dites, au lieu d'opérer 50 cœurs semaine, j'en opère juste 30. C'est parce qu'il manque de personnel? C'est quoi? Pourquoi vous pouvez...
Ouais, il manque de personnel.
C'est ça, hein?
Oui.
Et
il
c'est
manque de personnel.
Et moi, c'est
chirurgien, ça. Les chirurgiens mettent leur une sonde, ils vont opérer 3 cas par jour. Et ils ne se lèveront pas pour aller uriner, puis ils vont opérer. Et c'est les machines. C'est pas ça le problème. C'est l'environnement, c'est les soins intensifs, c'est le personnel, les inhalos. Exactement ce que le docteur Marquis mentionne, même affaire. C'est pas nouveau, ça.
Hey, j'ai quelqu'un qui m'écrit.
C'est ça qui nous fait mal.
J'ai quelqu'un qui m'écrit. Il dit, le docteur Marquis a eu la phrase choc du jour. Le bordel est pris à 140% d'occupation, puis il y a seulement 2 cas COVID dans mon hôpital.
Ben oui, mais c'est ça. Puis ce que les gens comprennent pas, là, les gens qui comprennent pas le 28 jours, puis je pourrais-tu aller jouer à pétanque, parce que ça, c'est... Hey, y a-tu quelque chose que c'est plus clair que ça, d'éviter vos choses sociales qui sont pas nécessaires? Je veux dire, tu vas pas à l'épicerie pour jaser, tu vas à l'épicerie pour faire ton épicerie, comprends-tu? Fait arrêtez de niaiser avec ça, parce que le problème, là, c'est que si les hôpitaux se remplissent de monde COVID, là, ben la chirurgie élective pour le cancer, la biopsie pour ci, pour ça, toutes les choses électives, là, on avait 92 000 chirurgies en retard, là, avant de rentrer dans la deuxième vague, là. 92 000, ça va amplifier, ça, là. Fait que c'est ça que les gens comprennent pas. Ah oui, c'est des jeunes, puis ils sont pas trop hospitalisés, puis il n'y a pas trop de décès, mais ils vont l'être hospitalisés parce que vous allez infecter tout le monde aux alentours. Fait que le nombre va faire qu'on va remplir nos hôpitaux, puis là, les choses électives se feront pas, puis il va y avoir des dommages collatéraux, comme il y a eu cet été. Il y a eu une augmentation de décès cet été, pas par cause de la COVID, on n'était pas dans la deuxième vague. Au Québec, on a une augmentation de décès. Ils sont en train de défricher ça. C'est-tu les patients qui ne sont pas présentés à l'urgence? C'est-tu la chaleur? Je ne sais pas c'est quoi, mais il y a une augmentation par rapport à l'été passé. C'est pas normal. Fait que là, le monde, là, c'est comme l'impôt, ça. Tu essaies d'étirer l'élastique jusqu'à temps que tu te fasses pogner. Mais là, la COVID, là, arrêtez d'étirer l'élastique jusqu'à temps que tu te fasses pogner.
Fait que vous,
c'est clair, ça.
Fait que, ouais, non, c'est pas mal clair. Fait que, Dr Poirier, vous espérez qu'à 5h30, à 17h30, quand Legault va prendre la parole, vous espérez qu'il donne un coup puis qu'il aille, qu'il prenne des mesures fermes.
Ben, c'est, les gens n'écoutent pas. C'est comme un adolescent qui lui dit de pas faire ça. Il va le faire pareil. Ça lui prend des règlements, le monde.
Pensez-vous qu'ils vont y respecter les règlements? Pensez-vous qu'ils vont respecter les règlements, Paul?
Ben là, s'ils ne respectent pas, il va falloir qu'il y ait des amendes et qu'il y ait des conséquences. À un moment donné, là, 1 plus 1, ça fait 2. Là. Puis quand tu multiplies, ça fait 4. Là, à un moment donné, là, il faut arrêter. Là. Parce que là, la deuxième vague, avec l'influenza qui s'en vient, puis là, toute la gang de machins qui ne voudront pas les anti-vaccins, tout ça, et ça va être beau, ça, là. Là. Fait que c'est ça le maudit problème. C'est que les gens ont eu du lousse, ils l'ont pris plus 2 pieds. Puis ils n'ont pas été assez intelligent, conséquent, compréhensif. Appelez ça comme vous voulez. J'ai mon vocabulaire, vous avez le vôtre. Il y en a qui sont plus corporatifs que d'autres. Mais le bas de la facture, c'est qu'il va être obligé de dire aux gars, aux gens, vous n'avez pas écouté. Voilà. Bienvenue.
Peux-tu vous poser une question un peu qui vient du champ gauche?
Envoyez-la.
la station Radio X à Québec qui donne, qui est un haut-parleur pour les anti-masques puis pour ceux qui pensent que la pandémie est une créature des gouvernements. Ils ont décidé de pas passer la publicité du gouvernement. Puis là, la ville de Québec vient de décider de retirer ses publicités de Radio X parce qu'ils considèrent essentiellement que Radio X est un danger public, un danger à la santé publique. Comment vous réagissez?
Ils font de la business. Puis je vais vous dire, ils font de la business, puis c'est malheureux. C'est comme Trump, il fait de la business, puis regardez là ce qui se passe aux États-Unis. Fait que là, à un moment donné, il va falloir que les gens soient conséquents, puis soient intelligents, puis soient socialement responsables. La problématique, là, regardez là, la COVID, là, je la vois facilement, OK? Je m'en vais dans votre bureau, là. On va placoter tous deux face à face à 2 mètres avec un masque. Je vais vous fumer d'en face. Fumer secondaire. On sait tous que c'est pas bon, la fumée secondaire. Tout le monde le sait. Tout le monde. Fumée, c'est pas bon. Fumée secondaire, c'est pas bon. Mais COVID secondaire, c'est pareil. Portez votre masque, 2 mètres. C'est tout. C'est simple.
Docteur.
Gardez-vous les mains. Non, mais écoute, ça fait 6 mois qu'on entend parler, sacrifice. Puis en Chine, ça fait des années qu'ils portent des masques. C'est quoi le problème? Je peux pas porter un masque, je me sens étouffé. Ben là, tiens-toi à 10 pieds à la place de 2 mètres. 3 mètres.
Docteur Paul Poirier, mesdames et messieurs, cardiologue à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, l'hôpital Laval. C'est toujours un plaisir, Paul.
Merci.
Bonne chance. Salut. Bye. Et sac, c'est tout un communicateur, hein, ce médecin-là. OK, on s'arrête. Et après la pause, on est conséquent, là. On est conséquent parce que là, il y a une première entente pour les préposés aux bénéficiaires. Ça va permettre notamment de prendre des postes à temps partiel puis les convertir en postes à temps plein. Parce que vous savez que les syndicats là, du secteur public négocient là, avec le gouvernement du Québec pour renouveler la convention collective. Et là, il y a une première entente pour les préposés aux bénéficiaires. Moi, je pense que c'est une bonne nouvelle. Puis ça va stabiliser les équipes où ces syndiqués-là sont présents, puis on va espérer qu'il y a d'autres syndicats qui vont en venir à une entente. Fait qu'on vous parle de tout ça après la pause.